tous.
Il est 8h sur Europe 1.
Je suis vacciné, mais je refuse de montrer un pass sanitaire. Allons, c'est honteux, honteux. Je n'ai jamais manifesté, je suis prêt à descendre dans la rue.
Pas anti-vax, mais anti-pass. Des milliers de manifestants sont attendus dans les rues aujourd'hui pour manifester contre le pass sanitaire. Pas toujours une question de santé, mais souvent une affaire de valeur, vous l'entendrez.
Emmanuel Macron arrive en Polynésie cet après-midi. Le chef de l'État y passera 4 jours entre situation sanitaire et conséquences des essais nucléaires français dans l'archipel.
Et puis sur la route des vacances, la journée s'annonce chargée. Mais si vous allez du côté de l'île de Ré, vous pourrez compter sur le sourire des agents du péage. Et oui, c'est le seul où il y a encore du monde en cabine.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils étaient plus de 110 000 la semaine dernière dans les rues contre le pass sanitaire et aujourd'hui les autorités s'attendent à ce qu'elles soient encore plus nombreuses, ces personnes.
Oui, des contestataires que le vote du projet de loi à l'Assemblée nationale n'a pas apaisé. Une centaine de rassemblements sont d'ores et déjà prévus aujourd'hui et chacun a sa propre raison de refuser, non pas forcément le vaccin, mais bien le pass sanitaire.
Je suis vacciné, mais je refuse de montrer un pass sanitaire. Allons.
À 76 ans, Gérard a téléchargé son QR code sur son smartphone. Il détient le précieux laissez-passer, mais pas question de le montrer pour entrer dans un café.
C'est créer une France à deux vitesses, avec des gens qui ont des droits et des gens qui ont perdu leurs droits. C'est honteux, honteux. Je n'ai jamais manifesté, je suis prêt à descendre dans la rue.
C'est dans les rues de Paris que Jefferson défilera cet après-midi. Comme Marie, il refuse de se faire vacciner dans l'immédiat, quitte à faire une croix sur certaines de leurs sorties.
Si j'ai besoin de regarder un film, bah on a tout disponible aujourd'hui avec Netflix. Si j'ai besoin de passer une commande, on a tout ce qu'il faut aussi avec un Uber Eats par exemple. Je suis prêt à sacrifier mes vacances s'il le faut.
Le sport, ça va changer, mais ça m'est égal aussi. C'est mort, je ne retournerai pas à la salle. Je courrai autour du pâté de maison, mais c'est hors de question de mettre à genoux.
Tous appellent au boycott des lieux exigeant ce pass. L'objectif, vider les restaurants, les centres commerciaux et les lieux de culture pour, disent-ils, faire plier le gouvernement et qu'ils renoncent au pass sanitaire généralisé.
Un reportage signé Caroline Baudry.
De leur côté, les sénateurs poursuivent aujourd'hui l'examen du projet de loi sur le pass sanitaire. On va en parler juste après ce journal avec mon invité Patrick Canner. Et pendant ce temps-là, l'épidémie continue de galoper.
21 000 cas de plus rien qu'hier, 29 nouveaux décès à l'hôpital et 330 nouveaux patients pris en charge. Aujourd'hui, 6 800 personnes au total sont hospitalisées à cause du coronavirus. Dans les services, on commence à s'inquiéter, Virginie Riva.
Oui, et c'est une première. Depuis la mi-avril, les hospitalisations ont augmenté de plus de 55% sur tout le territoire et de 35% en réa. Au 20 juillet, on comptait près de 7 000 patients hospitalisés, 900 en soins critiques. Dans son service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, le professeur Djilali Annane a déjà réfléchi à l'organisation cet été en cas de quatrième vague à l'hôpital, car ce sont les ressources humaines qui vont manquer.
À partir du moment où les hospitalisations augmentent, il y a en général un décalage d'une dizaine de jours pour qu'il y ait un impact sur les services de réanimation. On craint une deuxième, troisième semaine d'août difficile. Nous, on a eu plusieurs discussions dans le service, par exemple, entre médecins, mais aussi avec nos infirmières, pour essayer effectivement de faire en sorte que la majorité puisse prendre rapidement ses repos et ses congés dans une période où l'on n'a pas encore d'impact de la quatrième vague sur nos services.
Le professeur qui tente d'alerter, non, cette vague à l'hôpital n'est pas une fatalité. Elle peut encore être évitée, particulièrement si les tranches d'âge les plus contaminées, à savoir les adolescents et les jeunes adultes, se vaccinent. Dans son service, les deux patients en réanimation depuis début juillet sont un homme de 39 ans non vacciné, sans aucun antécédent, et un autre de 53 ans qui n'avait reçu qu'une seule dose.
Virginie Riva.
Emmanuel Macron poursuit son tour de France. Le président de la République est en route pour la Polynésie.
Il est attendu à Papeete cet après-midi. Un déplacement de 4 jours, le premier du chef de l'État en Outre-mer depuis 2019. Et entre la situation sanitaire et les problématiques locales, Emmanuel Macron est très attendu. Le reportage sur place de Claudia Bertram.
Entre les étals de poissons, de fruits et de perles, certains affichent une relative indifférence à la venue du président. Taoura Regina, vendeuse au marché depuis plus de 30 ans, elle se réjouit.
Je suis très heureuse. Parce que c'est pas tout le temps que le président vient.
Isla, qui vend des paréos, espère qu'il sera question de la crise sanitaire. Avec la fermeture des frontières, le tourisme, la principale activité économique, a été durement frappé.
Pour nous, ça a été une catastrophe. Depuis qu'il y avait le Covid-19, on avait du mal à vendre nos produits. Il y avait moins de clients, moins de budget.
25 ans après la fin des essais nucléaires, Lydia, couronne de fleurs sur la tête, attend surtout qu'Emmanuel Macron s'exprime à ce sujet.
Les gens, ils veulent savoir, il y a eu des séquelles. Ils veulent savoir exactement si vraiment elles viennent de là, le comment et le pourquoi. Est-ce que c'est vraiment un pardon ou on doit rester tel quel? Je ne sais pas.
Derrière son stand de bijoux, Taïmana demande des avancées sur les indemnisations des victimes.
Je connais quelques personnes voilà, qui ont travaillé pendant les essais nucléaires, qui sont aujourd'hui malades, qui ne sont pas forcément pris en charge, qui n'ont pas les moyens de se payer des médicaments que l'État reconnaît, qui peuvent au moins les aider. C'est la moindre des choses qu'on demande.
Au large et dans les sous-sols des îles et atolls paradisiaques, pas moins de 193 essais nucléaires ont été menés. Papété, Claudia Bertram, Europe 1.
8h06 sur Europe 1, c'est l'heure de la reprise de la Ligue 2 en football.
Oui, avec en ouverture Bastia-Nîmes à 15h et le multiplex à 19h. Dans une semaine, c'est la Ligue 1 qui reprendra, mais vous ne vous attendez pas à voir les matchs sur Canal+, la chaîne cryptée qui avait racheté les droits de retransmission de son concurrent beIN Sport, ne veut plus les diffuser. La justice a tranché en sa faveur hier, une décision qui pourrait mettre le football français en difficulté. Vincent Chaudel, économiste du sport avec Johanna Chabas.
On a une incertitude sur deux matchs, est-ce qu'ils seront retransmis, et sur le paiement de 330 millions d'euros. C'est important pour les clubs qui potentiellement ne seraient pas diffusés, donc qui potentiellement ne pourraient pas exposer leurs partenaires, par exemple. Et ça joue aussi sur les montants que la Ligue doit collecter pour redistribuer aux clubs. Et 330 millions d'euros, c'est 40% du montant total des droits télé de la saison. C'est pas anodin. Et évidemment, quand on a des clubs qui sont télédépendants à 60, 65, voire 70%, les droits télé sont tellement importants que cette incertitude-là pèse sur leur capacité à recruter des joueurs ou à payer des salaires. Et le problème, c'est que ces 332 millions d'euros, ce n'est pas que pour cette année. C'est pour 2021 jusqu'en 2024. Et quand les clubs veulent recruter des joueurs, ils les recrutent rarement pour une saison. C'est pour 2, 3, 4 ans. Et donc là, à ce niveau-là, vous avez plutôt intérêt à avoir une vision relativement précise de vos rentrées d'argent.
Vincent Chaudel, économiste du sport au micro européen de Johanna Chabas.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite du journal de Fanny Marceau. On ira vivre les Jeux Olympiques dans la fan zone du Trocadéro à Paris.
Europe Matin Weekend, Julien Pierce.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal de Fanny Marceau. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont donc démarré sans public en raison de la pandémie. Les spectateurs sont devant la télé ou à la fan zone du Trocadéro à Paris.
Oui, et au pied de la Tour Eiffel, on a surtout les yeux rivés, non pas sur les JO de 2020, mais plutôt sur les JO de 2024, Jean-Jacques Herry.
Sur l'écran, c'est bien la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo qui est diffusée. Mais dans le village, les logos qui s'affichent partout sont ceux de Paris 2024. Déjà un rendez-vous dans toutes les têtes.
On va se préparer pour en 3 ans, pour Paris 2024. C'est vraiment sympa d'être unis ici, tous ensemble, en dessous de la Tour Eiffel.
La prochaine étape aura lieu le 8 août, date de la cérémonie de clôture. À cette occasion, la maire de Paris, Anne Hidalgo, se rendra à Tokyo pour le passage de témoin entre les deux capitales. Elle y recevra aussi le drapeau olympique.
Ce fameux drapeau qui va m'être passé par la gouverneure de Tokyo et le président du CIO, Thomas Barr, et qui va marquer symboliquement vraiment l'engagement de notre Olympiade, l'Olympiade de Paris. Et je pense que ce moment-là va être aussi un moment symbolique et fort.
Pendant toute la quinzaine, le site du Trocadéro sera ouvert à tous ceux qui souhaitent suivre les épreuves retransmises en plein air. C'est là aussi que les athlètes médaillés viendront célébrer leur médaille avec leurs fans pour que déjà s'installe la fièvre olympique à Paris, 3 ans avant le début des épreuves.
Reportage signé Jean-Jacques Herry.
Les premiers ralentissements se dessinent déjà sur les routes des vacances. Bison Futé prévoit une journée rouge dans le sens des départs.
Oui, aujourd'hui, beaucoup de monde sera sur les routes, évidemment, et beaucoup aussi au péage. Avec cette petite surprise pour ceux qui partent à l'île de Ré, le péage du pont n'est pas automatique. Il y a encore des salariés dans les cabines. Ils seront remplacés en 2023, mais en attendant, ils offrent encore des sourires aux automobilistes. Laura Taouchanov.
Après avoir avalé des kilomètres seul sur l'autoroute, petite surprise pour ce couple de vacanciers au péage du pont de l'île de Ré.
Bonjour, est-ce que vous prenez le ticket ?
Je viens de la Bourgogne, on voit personne dans les cabines de péage quoi. Alors c'est pour ça que j'étais étonnée d'en voir encore là.
Au moins cet effet de surprise offre quelques parenthèses de légèreté à Delphine qui peut se sentir un peu seule dans sa petite cabine.
On crée mine de rien des liens avec les gens. Je rigole un peu avec eux quand c'est comme ça. Par exemple l'autre fois j'avais des jeunes, il a été surpris mais on voyait à son visage qu'il ne s'attendait vraiment pas à me voir. Alors je lui ai dit que j'étais le dernier dinosaure, en plus j'avais une robe verte, et ben voilà. Bonjour monsieur, dame.
Au poste de surveillance du péage, Martine est là depuis l'ouverture du pont en 88.
la carte d'abonnement, ça ne marche pas.
C'est notre quotidien.
D'ici 2 ans, les machines l'auront remplacée en cabine, mais elle emportera avec elle beaucoup d'anecdotes.
Comme une personne qui a oublié un petit peu de s'habiller pour conduire, qui s'est mis très à l'aise. On ne sait plus qui est le plus surpris des deux après.
Mais c'est l'une des contreparties de ce péage humain. Il faut éviter les cas de Covid au maximum pour que les barrières continuent à se lever et laissent passer des vacanciers pressés de se baigner. L'île de Ré, Laura Taouchanov, Europe 1.
C'était le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny et à tout à l'heure. Europe Matin Weekend.